Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Que reste-t-il du droit international? On en parle ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
L'offensive israélienne lancée contre l'Iran constitue un énième pied de nez au droit. Mais avant cet événement, on peut citer la guerre à Gaza et l'entrave à l'accès humanitaire dans l'enclave palestinienne ou encore de nombreuses décisions prises par le président américain Donald Trump qui aujourd'hui sont contestées en justice sans grand résultat. Notre question ce soir, est-ce que la loi du plus fort a remplacé le droit international? Comment expliquer que rien aujourd'hui ne semble pouvoir arrêter le pouvoir politique, les dirigeants politiques? Est-ce que le droit international peut à nouveau s'imposer? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Ronny Broman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, spécialiste des questions internationales et humanitaires. Face à vous, Jean-Maurice Ripert, bonsoir.
Bonsoir.
Ambassadeur de France, président de l'Association française pour les Nations unies. Et notre troisième invité en ligne avec nous, Olivier de Frouville, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas, directeur du Centre des recherches sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors aujourd'hui, un hôpital a été bombardé par l'armée iranienne. Ça s'est produit dans le sud d'Israël. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Ronny Broman, ce sont des choses, tristement, je dirais, qu'on voit quasiment tous les jours dans l'actualité. Est-ce qu'à chaque fois, ce sont des atteintes au droit international?
Ben, voilà à peu près 600 jours qu'à Gaza, on voit régulièrement des hôpitaux bombardés. Et d'ailleurs, au-delà des hôpitaux, tout un système de santé mis par terre. Et je ne vais pas continuer là-dessus, parce qu'on pourrait voir aussi, on pourrait envisager tout ce qui a été mis par terre. Donc, de fait, le droit international, le droit humanitaire en particulier, le droit international plus généralement, est en position de très grande souffrance. Mais puisqu'on parle du conflit israélo-palestinien et de ses prolongements, là, avec par exemple l'attaque de l'Iran, ce qui est consternant d'une certaine manière, c'est moins la violation, enfin en tout cas à mes yeux, c'est moins la violation du droit international par le fait d'attaquer un pays souverain alors qu'on n'a pas été soi-même attaqué, que l'approbation qui est fournie par l'ensemble de la, enfin de, disons des défenseurs du droit, disons le G7 pour parler de l'organisme qui l'a le plus récemment
approbation
approuvé.
ou non contestation. Enfin non contestation vaut approbation.
Non remise en question, ouais. En effet, pour un certain nombre, et approbation par cette formule surréaliste en l'occurrence qui est le droit de se défendre. Israël attaque et est gratifié du droit de se défendre. Tout le monde a le droit de se défendre. Ouais. Personne ne peut contester le droit de se défendre, mais c'est le droit d'attaquer qui est en question. Or là, on assiste à une inversion des mots, du sens, qui fait perdre toute consistance, toute considération pour le droit international. L'Europe et, disons, les pays qui se présentent, non sans raison, comme des démocraties sur la scène mondiale, sont a priori les premiers défenseurs du droit international, des droits de l'homme, le droit des droits de l'homme, le droit humanitaire, le droit international. Et dans les circonstances actuelles, disons, de la guerre entre Israël et les Palestiniens, mais aussi de la guerre entre Israël et l'Iran, c'est le contraire qui se passe. Les violations du droit international sont activement approuvées, ouais, par tous ces gens-là, et c'est là que, à mon avis, réside le problème.
Et Jean-Maurice Ripert, vous qui êtes ambassadeur de France, comment vous observez cela? Écoutez, qu'il y ait ce silence assourdissant concernant ces offensives. Et le droit de se défendre, effectivement, c'est ainsi qu'Israël justifie l'offensive en Iran. La Charte des Nations Unies dit que le recours à la force militaire
respecte le droit de légitime défense.
Oui, c'est ça, légitime défense.
L'article 51.
Mais est-ce qu'il faut parler de droit de se défendre concernant les offensives israéliennes en Iran aujourd'hui?
Écoutez, en tant que président de l'AFNU, moi je voudrais qu'on limite pas le débat à ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient, aussi grave soit-il. Je rappellerai que dans les violations du droit, évidemment, les massacres du 7 octobre commis par le Hamas font partie évidemment des violations fondamentaux des droits humains, puisque c'est le droit à la vie qui est nié à toutes les personnes qui ont été massacrées. Le fait de prendre des otages, de tuer des enfants, etc., c'est aussi contraire au droit international. Je pense qu'il faut le rappeler quand même quand on parle de ce conflit. Non, moi je pense qu'il y a deux évolutions, si vous voulez, qui sont extrêmement préoccupantes aujourd'hui. D'abord, malheureusement, les violences et la violation du droit international, des droits humains et du droit humanitaire, et Ronnie est bien placé pour le savoir, évidemment, ça a hélas toujours existé. Ça fait bien longtemps, hélas, que les conflits, en tout cas depuis 1945, qui étaient souvent des conflits de proxy, comme on dit, conduisaient à des situations épouvantables. On parlait tout à l'heure, entre nous, des 30 ans de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. On peut parler des massacres qui sont conduits en Birmanie, Myanmar, depuis des années. On peut parler de la situation au Soudan, du Darfour. Et là, ça a toujours existé. Mais ce qui est nouveau, c'est que, d'une manière ou d'une autre, aux Nations Unies, les trois grandes puissances, avec beaucoup de paires de guillemets aujourd'hui, essayaient tant bien que mal de faire respecter le droit international, et les Européens et d'autres arrivaient à faire progresser quand même un certain nombre de règles, soit dans le droit de la guerre, soit dans le droit, les droits humains.
Enfin, au moins, on condamnait.
Au moins, on condamnait et on essayait d'intervenir. Ce qui est dramatique aujourd'hui, me semble-t-il, c'est la convergence des attaques contre le droit international, et je voudrais juste rajouter un mot, contre le système multilatéral, la convergence des politiques menées aujourd'hui par deux dictatures et une autocratie qui se dessinent, c'est-à-dire la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Donald Trump, qui ont érigé le recours à la force et la menace du recours à la force et la coercition en règle de conduite et qui donc, de fait, décident de s'exonérer du droit international. Alors tout le monde dit, il n'y a plus de règles, je parle sous le contrôle d'Olivier de Fauville, bien sûr que si, il y a toujours des règles. Simplement, il y a des pays qui ont décidé de s'en affranchir et qui voudraient qu'on l'accepte. Et donc toute la difficulté aujourd'hui, ça va être, c'est pour le système multilatéral, de continuer à refuser cet état de fait où les trois anciennes superpuissances veulent nous imposer leur façon de diriger les affaires du monde par la violence et la force.
Ils veulent nous imposer, alors le « nous » il est général, mais justement, pourquoi ne réagissons-nous pas ?
Je parle du monde démocratique,
bien sûr,
je
mais
parle
alors,
sûrement pas de l'Occident qui ne veut
pourquoi le monde démocratique ne réagit-il pas davantage ?
Le monde démocratique est démocrate, par définition, et donc il est dans une situation difficile, parce que lui, il essaye de respecter le droit, les valeurs des Nations Unies, la charte, et que malheureusement, il n'y a plus grand monde qui veut l'écouter, qu'en tout cas...
Pourquoi approuver l'agression
de l'Iran? Non, moi je vais écouter, les Nations Unies n'ont pas approuvé ce que fait Israël, mais
démocratique.
Encore une fois, les Nations Unies ont condamné l'occupation, l'agression russe contre l'Ukraine. Je vous rappelle qu'il y a quand même 142 pays qui, encore il y a trois semaines ou un mois, ont condamné cette, à l'Assemblée Générale, ont condamné cette agression.
Il y a eu
la Cour pénale internationale.
Pas Israël.
La Cour
pénale n'a pas condamné.
Attendez, Cour pénale internationale. C'est une émission sur Israël ou c'est une émission sur le problème des droits internationaux?
C'est quand même une question importante.
Parlons d'Israël, mais à ce moment-là, allons jusqu'au fond des choses.
Israël est beaucoup mis en cause. Justement, pour ces entraves au droit international aujourd'hui.
Excusez-moi, je vous ai cité le Myanmar, on pourrait parler du Yémen, la République du Congo, dont l'Est est occupé, nous le savons très bien, par une puissance étrangère, voisine. Nous avons une guerre civile épouvantable
Ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est d'abord la guerre à Gaza, l'offensive israélienne en Iran.
Moi, je
ne
sais pas, vous m'avez invité pour parler du droit international et du recours à la force. Hélas, Israël, aujourd'hui, je rappelle quand même que la CPI s'est saisie du problème de Gaza, ce sont ceux qui disent le droit, notamment pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide. Le Premier ministre Netanyahou a été inculpé, ça n'est quand même pas rien.
Il a toujours les mains libres.
Oui, Monsieur Poutine aussi.
Il a toujours les mains libres.
Écoutez, non, je ne sais pas. Si c'est une émission qui est faite pour condamner Israël, condamner Israël, mais moi je ne suis pas là pour parler
Vladimir
de ça.
Vladimir Poutine, président russe. Mandat d'arrêt de la CPI délivré contre lui.
Oui, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura d'autres mandats d'arrêt qui seront émis et contre les militaires russes, et contre les militaires israéliens, et contre les nouveaux chefs du Hamas qui continuent la guerre.
Mais quand on pose la question, est-ce que la loi du plus fort a remplacé le droit international?
Dans les faits,
est-ce que ça suffit de répondre, il y a des mandats d'arrêt délivrés par la CPI.
Ça suffisait.
Non, mais dans le sens où aujourd'hui, est-ce que ça entrave l'action de président russe, du Premier ministre israélien?
Je ne fais pas partie des gens qui se désespèrent pour rien. Je pense qu'il faut se battre pour que les choses positives progressent, et progressent de nouveau. Donc je considère que le droit international continue à exister, pour répondre à votre question. Il est bafoué par un certain nombre de pays, dont la Russie, les États-Unis, la Chine, Israël, hélas, bien d'autres. Et que nous devons nous battre pour que dans le système multilatéral qui est mis en cause par cette mise en cause du droit international, parce que ne vous trompez pas, c'est ça que cherchent les pays qui aujourd'hui veulent imposer le recours à la force, c'est de décider unilatéralement du sort du monde en se passant du système multilatéral. Donc, si vous voulez, c'est le rasoir à deux lames. Il y a deux dangers qui se superposent. À partir de là, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'on se batte. Il faut que les démocrates du monde entier, qui ne sont pas qu'en Europe, mais qui sont en Europe, mais aussi dans les grands pays du Sud, il faut que l'Inde, il faut que l'Afrique du Sud, il faut que le Brésil se manifestent avec tous les défenseurs du système multilatéral pour recréer cette prééminence du droit. Alors, comment on l'impose, il faut demander à Olivier, c'est compliqué. Mais...
On va poser la question à Olivier de Trouville, mais c'est intéressant, l'Afrique du Sud, effectivement, a aussi une affaire devant la CIJ, la Cour internationale de justice, concernant Israël. Olivier de Trouville, effectivement, vous avez encore entendu, Jean-Maurice Ripert nous disait le droit international continue à exister. Il a toujours été atteint par, nous disait Jean-Maurice Ripert, les précédents conflits. Mais est-ce qu'il n'est pas de plus en plus touché aujourd'hui, de plus en plus remis en cause aujourd'hui?
Merci. Je pense qu'il y a un problème qu'on peut tout de suite identifier, c'est la question des doubles standards et que soulevait Ronnie Broman, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les États, au fond, attaquent le droit international lorsque leur intérêt national est attaqué, alors que on peut se dire qu'il y a une certaine époque où il y avait des États qui étaient capables de conjuguer leur intérêt national et l'intérêt international ou l'intérêt global. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, il y a deux États qui dénoncent l'agression israélienne contre l'Iran, c'est la Russie et la Chine. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, effectivement, de les voir défendre le droit international. Jean-Maurice Ripert, tout à l'heure, parlait du bloc démocratique. Ben, au fond, les choses ne se posent plus de cette manière-là. Il n'y a plus d'un côté un bloc démocratique et de l'autre un bloc dictatorial ou totalitaire. Il y a, au fond, un peu partout dans le monde, des dirigeants à tendance autoritaire qui soutiennent une idéologie qui est fondamentalement, au fond, un anti-internationaliste, qui est avant tout orienté sur le nationalisme, sur la défense des intérêts. En général teinté aussi d'une certaine forme de populisme et qui cherche à asseoir son autorité aussi à travers l'incitation ou la création de conflits internationaux.
C'est le chacun pour soi qui prime. Pourquoi il y a ce bras de fer aujourd'hui entre justement le pouvoir politique et le droit international? Comment est-ce que le droit international peut répondre justement à ce bras de fer lancé par ces dirigeants que vous évoquez?
Encore une fois, c'est fondamentalement une question idéologique. Je crois qu'il y a un camp internationaliste, ça existait déjà aussi pendant l'entre-deux-guerres, et il y a des dirigeants, des gouvernants qui sont fondamentalement d'abord contre les idéaux de la modernité, que ce soit les droits humains ou le droit humanitaire, mais aussi contre le droit international, et qui par ailleurs ont intérêt pour se maintenir au pouvoir à créer des conflits avec les autres États. Et c'est au fond ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui on a affaire à une bande de petits garçons qui se battent entre eux et qui comparent la longueur de leurs missiles, alors qu'aujourd'hui on apprend que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5% par rapport à l'ère pré-industrielle est devenu inatteignable.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces petits garçons, je vais reprendre le mot fort d'Olivier de Frouville, mais qui ont un sacré pouvoir de nuisance aujourd'hui dans le monde, ils puissent autant agir impunément? Est-ce que ça veut dire que Ronnie Broman, que le droit international, il n'est pas adapté à nos situations actuelles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse autant... Alors, effectivement, on a beaucoup parlé d'Israël, mais on peut aussi parler des décisions prises par le président américain Donald Trump, qui sont contestées en justice. Pour l'instant, ça ne fragilise pas. Ça ne fragilisera pas le président américain.
Je ne suis pas assez juriste pour pour fournir un avis informé sur le caractère adapté ou inadapté du droit. Mais disons, en tant que citoyen, ce que je vois, c'est que la violation du droit... n'annule pas le droit. En elle-même, la violation du droit, c'est une violation du droit, c'est une infraction. Elle doit être pointée, elle doit être, si possible, sanctionnée. Et le droit, comme ça, peut retrouver une certaine substance. Mais précisément, ce que je voulais mettre en avant, c'est que les violations du droit sont condamnées dans certaines circonstances et sont approuvées dans d'autres circonstances, si bien que le droit n'est plus un droit, mais la loi du plus fort, la loi du plus opportuniste.
Vous avez répondu à la question.
Voilà. Et c'est là que je trouve ce gît le problème principal. Regardez, le début du XXIe siècle a été marqué par deux guerres de mise à, disons, de deux interventions extérieures, la guerre d'Irak de 2003 et la guerre de Libye de 2011. Dans les deux cas, on a fabriqué des prétextes pour intervenir. Dans le premier cas, je le rappelle, c'était les fameuses armes de destruction massive qui n'existaient pas, mais qu'on a quelque sorte virtualisé, inventé pour justifier une intervention. Les conséquences, on les connaît, des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, un chaos qui est aujourd'hui encore difficile à résorber. Et en Libye, on a inventé de faux massacres, de faux charniers, de fausses menaces génocidaires pour intervenir. Alors cette fois-ci, en toute légalité, puisqu'il y avait cette résolution 1973 des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui autorisait la mise en œuvre de moyens pour protéger la population de Benghazi et de la protection de la population de Benghazi, sur laquelle la menace, disons, était discutable, mais admettons qu'elle ait été réelle, on est passé au régime change, c'est-à-dire on a recréé les conditions de l'Irak, puisqu'on a abattu le dictateur Kadhafi. Et en disant cela, je ne pleure pas sur Kadhafi, je pleure sur une certaine stabilité et sur des mensonges qui ont conduit à une catastrophe.
Ça veut dire qu'il y a des précédents aux situations actuelles.
Voilà, on a créé une sorte d'arrière-fond de perspective historique à l'intérieur de laquelle on se situe d'une certaine manière plus facilement. Si la France, les États-Unis, pour ne parler que, disons, de la Libye et de l'Irak, donnent l'exemple d'interventions abusives, fabriquées, dont on ne connaît même pas, on ne comprend pas très bien d'ailleurs la logique, il n'y a pas à s'étonner qu'ensuite ce soit suivi. La question du précédent en matière de droit, là, je parle sous le contrôle du juriste, elle a son importance. Dès l'instant qu'il y a une sorte de jurisprudence de fait qui est installée, d'autres peuvent mettre leur pas dans ceux qui ont créé cette jurisprudence. Donc, attaquer en fonction de leur problème politique interne. Parce que Netanyahou, il règle aussi une vieille question interne en attaquant l'Iran.
Ouais, Olivier de Frouville, mais le juriste, justement. Dès lors, comment est-ce qu'on peut entraver cette montée en puissance de cette loi du plus fort? Jusqu'où elle peut aller? Ronnie Broman évoquait ce qui s'était passé ces dernières décennies en Irak, en Libye. Qu'est-ce qui peut demain empêcher le président américain, Donald Trump, par exemple, d'annexer le Groenland, d'annexer le Canada, de faire de Gaza la rivière du Moyen-Orient?
Le président américain, malheureusement, je pense que rien ne peut l'empêcher. Et donc, il faut attendre le prochain cycle électoral américain pour voir s'il y aura un changement qui viendra des électeurs américains. Et on voit que les cycles électoraux américains ont une grande influence sur la santé, si j'ose dire, du droit international et du multilatéralisme. On a déjà connu une période de crise très grave au début des années 2000 avec l'administration Bush et l'attaque et l'agression contre l'Irak à la suite du 11 septembre 2001. Donc ça, c'est vraiment une donnée, je dirais, sur laquelle on a assez peu de prise. Cela dit, je ne voulais pas être trop alarmiste non plus sur l'état du droit international, parce que le droit de la charte, et en particulier le droit du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ce n'est pas tout le droit international. En fond, ça, les gens l'oublient souvent, il y a toute une partie du droit international qui marche très bien. C'est le droit des communications, c'est le droit des relations diplomatiques, c'est une bonne partie du droit économique, c'est une bonne partie du droit de la santé internationale ou des relations culturelles. Et puis c'est vrai qu'il y a ce droit qui touche à la question fondamentalement de la violence, des jeux de pouvoir, des enjeux stratégiques, qui là est très souvent malmené parce que les plus puissants font un usage abusif des catégories juridiques, et Ronnie Broman a tout à fait raison. La notion de légitime défense, notamment, a connu une extension considérable, notamment au début des années 2000, de la part des États occidentaux, essentiellement, de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et en effet, ensuite, ça a permis d'autres dérives. Mais il faut pas penser que c'est tout le droit international. Et même à l'intérieur de ce droit, si on regarde le fonctionnement du Conseil de sécurité, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une institution qui fonctionne. Il y a eu plus de 500 réunions l'année dernière, 46 résolutions. C'est une institution qui reste active dans un certain nombre de situations où, voilà, ça peut paraître bizarre, mais malgré leurs différents extrêmes, les États qui sont autour de la table, y compris les 5 membres permanents, trouvent des points de convergence, en tout cas sur un certain nombre de situations.
Combien de projets de résolutions indispensables ont échoué à cause du veto du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Ah oui, alors là, beaucoup. Le veto, je pense que c'est central. Certains vous diront pas de veto, pas d'ONU, mais moi, je vous dis que le veto n'a certainement pas aidé à préserver la paix. Au contraire, je pense que ça a été un facteur de guerre. On peut citer la situation israélo-palestinienne. S'il n'y avait pas de veto, je pense qu'on aurait, l'ONU aurait probablement pu résoudre et essayer en tout cas de résoudre cette situation depuis longtemps.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
La loi du plus fort a-t-elle remplacé le droit international? Évidemment, on en parle alors que se déroule actuellement cette guerre entre Israël et l'Iran. On a évoqué dans la première partie du débat ce en quoi l'histoire récente finalement avait posé les bases de la situation d'aujourd'hui qu'on observe. Mes trois invités sont Olivier de Frouville, qui est professeur à l'Université Paris Panthéon Assas, directeur du Centre des recherches sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, spécialiste des questions internationales et humanitaires, et Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France, président de l'Association française pour les Nations Unies. Justement, vous êtes ambassadeur de France, j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui à la diplomatie dans le chaos mondial d'aujourd'hui, dans les bouleversements mondiaux qui sont observés aujourd'hui? Je termine juste, quand vous avez par exemple le président américain qui quitte à la fin d'une première journée le sommet du G7.
Écoutez, la planète compte plus de 9 milliards d'habitants. Si on additionne les populations des trois superpuissances qui sont de manière la plus évidente en train de violer systématiquement le droit international, on arrive à une toute petite proportion de l'humanité. Alors vous m'excuserez de penser que le monde ne fonctionne pas qu'autour d'eux et que la force des autocrates, c'est justement de faire croire que le monde tourne autour d'eux, que ce qu'ils disent est déjà la réalité, que le rapport de force qu'ils proclament est une réalité. Je n'y crois pas. Bien. Et je suis content qu'Olivier ait rappelé l'importance des Nations Unies dans la fabrication des normes. Il y a des milliers, encore une fois, avec Ronnie, nous le savons bien, de volontaires, d'agents des Nations Unies, de financement des ONG qui permettent de porter secours dans tous les lieux de misère du monde.
Il y a toujours des garde-fous.
Excusez-moi, mais c'est extrêmement important parce que ces gens-là, ils se battent aux Nations Unies pour le respect du droit et notamment du droit à la vie, du droit à la santé, de la protection des enfants, toutes ces conventions internationales qui ont été adoptées sous l'égide des Nations Unies, c'est extrêmement important. Bien, ça n'est pas parce que M. Trump est président pour 4 ans, il y a des garde-fous aux États-Unis, heureusement pour nous, il y a, nous le savons, un département de la défense où il semble, excusez-moi, que les militaires, les hauts gradés américains ne soient pas particulièrement pressés d'aller envahir ni le Canada, ni le Groenland, ni Panama,
est-ce qu'il peut en être empêché,
exactement ce que veut M. Trump, c'est que nous créions en permanence dans les démocraties des situations où nous disons le monde est foutu, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien à respecter, il n'y a plus de chartes, tout ça ne sert à rien. Non, tout ça sert à quelque chose. Il faut invariablement, et encore une fois, regarder le travail formidable que font les grands pays du Sud et que font l'Europe pour essayer de faire survivre, malgré les difficultés, malgré les doubles standards qui ont pu être appliqués autrefois, c'est possible, pour faire appliquer ce qui peut l'être, pour faire revenir les choses dans le droit chemin. Je pense qu'il faut arrêter, encore une fois, de répéter, hélas, la parole des autocrates. La paix en Ukraine, M. Trump devait la faire en 24 heures. D'ailleurs, occuper l'Ukraine, M. Poutine devait le faire en 3 jours, sauf erreur de ma part. Bien. Israël en est.
A envahi l'Ukraine.
J'étais ambassadeur à Moscou quand il a envahi l'Ukraine en 2014. Par rapport à la situation de 2014, il a conquis en 3 ans de guerre épouvantable, où il aurait perdu d'ailleurs plus de 100 000 personnes dans les forces armées russes. Il a réussi à conquérir 5% du territoire de plus que ce qu'il avait en 2014. Alors, ne m'expliquez pas que les Russes ont gagné la guerre. J'ai pas dit non plus que les Ukrainiens avaient gagné la guerre. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que paradoxalement, il n'a pas gagné cette guerre en Ukraine. Il n'occupe pas l'Ukraine. Il n'a pas renversé le régime ukrainien. Et je ne crois pas que M. Netanyahou arrivera dans son entreprise, ni à détruire l'Iran, ni à détruire la Palestine. Heureusement pour les Palestiniens, qui ne sont pas à confondre avec le Hamas, d'ailleurs, de mon point de vue. Donc, je pense qu'il faut quand même savoir un petit peu raison garder. Se battre, c'est difficile. C'est pour ça que, avec les associations, on fait ce qu'on peut. Il faut que les gens essayent de comprendre qu'ils doivent se mobiliser. Il faut faire pression sur nos gouvernements. Mais, excusez-moi, dans la situation actuelle, ce dont personne ne parle, y compris d'ailleurs en ce qui concerne Gaza et tous les conflits qu'on a évoqués, qui a commencé à baisser l'aide publique au développement ? C'est pas Monsieur Trump. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves.
Ronnie Broman a commencé baissé, en expliquant bien, aussi le silence de la communauté
des dizaines de pétitions. Monsieur Trump n'a malheureusement fait que rajouter une couche qui, comme elle est importante, est dramatique. Mais ça, ça va avoir un effet immédiat. Un rapport des Nations Unies est paru il y a 2 jours, je crois. Le fonds d'urgence humanitaire des Nations Unies sera limité à 29 milliards au lieu des 44 milliards de dollars qui étaient prévus. Ça veut dire, estiment les Nations Unies, qu'il y a plus de 100 millions de personnes, et notamment de femmes, d'enfants et de vieillards, qui sont aujourd'hui en danger de mort.
Chacun doit balayer devant sa porte, finalement, c'est ce qu'on peut dire dans cette question. Est-ce que la Dubufort a remplacé l'ordre international? Mais allez-y, Ronnie Roman.
Je vais juste ajouter
quelque chose. Je voudrais vous relancer après.
D'ailleurs, trouver un point d'accord avec Jean-Maurice Ripert sur 2 choses. L'importance du système des Nations Unies, et moi je confirme ce qui était dit, l'importance des agences des Nations Unies qui font un travail essentiel et qu'il faut absolument soutenir, et l'importance de la diplomatie, parce que si on n'a plus de diplomates, on n'a plus les moyens de discuter des conflits, de discuter des désaccords, des litiges, et seule la force reste à la disposition pour régler ceci. Donc là-dessus, je suis absolument d'accord.
Et vous êtes aussi optimiste que Monsieur Ripert, vous pensez que les garde-fous aujourd'hui sont suffisants face aux ambitions des dirigeants actuels ?
Non, là-dessus, je ne pense pas que les garde-fous soient suffisants, mais en tout cas, ce sont que des spéculations. On verra bien. Il faut l'espérer et il faut tout faire. Donc, tout faire, ça veut dire aussi pointer les problèmes. Et c'est pour ça que je reviens d'ailleurs à notre point de désaccord sur ce que Monsieur de Frouville, ce que Olivier de Frouville appelait le double standard. Il y a en effet un deux poids, deux mesures qui est extrêmement problématique parce qu'il est la contradiction même de la loi. La loi, c'est la même règle pour tous.
On est d'accord.
Lorsqu'une règle s'applique dans une situation et que le contraire s'applique dans l'autre situation, ça n'est plus la loi, c'est le pur rapport de force avec instrumentalisation de la loi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est ça qui met la loi en danger.
Les Nations Unies sont le lieu légitime pour essayer de recréer ce chemin commun.
Tout à fait d'accord.
Sur lequel on est d'accord.
Elles sont bien peu défendues. Lorsque, par exemple, Netanyahou traite le secrétaire général des Nations Unies d'antisémite, la Cour pénale internationale d'antisémite, la Cour internationale de justice d'antisémite, et ainsi de suite, tout le monde sont antisémites, selon M. Netanyahou, on n'entend pas de réaction indignée de la part ni du président français, ni du premier ministre britannique, ni du chancelier allemand, qui se présente quand même.
Il faut que la société civile se mobilise, on est d'accord.
Mais la société civile se mobilise, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Ce sont les pouvoirs politiques qui sont inertes. Ça, c'est quand même important à souligner.
D'accord avec ça.
Et la loi du plus fort, finalement, oui, a remplacé le droit international. En tout cas, elle pèse aujourd'hui. Je pense que les réponses, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et c'est en ça qu'il y a un débat. C'est très intéressant. Merci beaucoup à vous, messieurs. Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières. Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France, président de l'Association française pour les Nations Unies. Et Olivier de Frouville, professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas, directeur du Centre des recherches sur les droits d'homme et le droit humanitaire. Merci à Florence Pons, qui était à la préparation de ce débat, et à Claude Battista, qui était à sa réalisation. Et puis merci à la documentation de Radio France Internationale.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et le dossier, eh bien, ça consacrerait aux options qui se présentent devant Donald Trump concernant une implication ou non des États-Unis dans le conflit actuel entre Israël et l'Iran. Évidemment, c'est une question clé quant à l'avenir de ce conflit. Et puis, 30 minutes plus tard, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. Sylvie Berruet est à mes côtés pour présenter le programme. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Alors, quel programme ce soir ?
La Centrafrique et la fin de 7 mois de procès, 6 lourdes condamnations et un acquittement. La Cour pénale a rendu son verdict dans les violences entre 2 factions rivales d'un groupe rebelle qui ont donc commis des exactions. C'était en mars 2020. La Guinée, 1 an et demi après l'explosion d'un dépôt de carburant à Conakry, de munitions. Les sinistrés attendent toujours d'être indemnisés. Ce sera le dossier d'Afrique Soir avec Sarata Camara. Nouveau coup de pression au Mali sur les partis politiques qui ont été dissous le mois dernier. La Cour des comptes leur demande à présent de justifier l'utilisation des subventions d'État. Et puis musique et la fête. Ce soir, nous irons au Maroc suivre la grande parade qui ouvre comme chaque année le grand festival des musiques Gnawa d'Essaouira. Guillaume Thibault est sur place pour RFI.
Eh bien, on sera avec lui pour écouter ça. Merci beaucoup Sylvie Berruet. Rendez-vous dans 30 minutes. D'ici là, c'est le grand journal du soir à suivre sur RFI. Ne bougez surtout pas.